Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Paul Percheron. La gourmandise ce matin est une courte réflexion du compositeur Eric Satie. Toute ma jeunesse, on me disait « Vous verrez quand vous aurez 50 ans ». J'ai 50 ans, je n'ai rien vu. Chanteur, musicien, réalisateur et écrivain, notre apothicaire de l'âme est un inventeur pressé à la fantaisie foisonnante. Pour se caler sur son tempo, j'esquisserai de grandes lignes biographiques. Adolescence à Valence, études de cinéma, puis accident de tennis, suivi d'une convalescence durant laquelle il se met à écrire des chansons accompagnées d'une guitare. Il fait la manche dans des restaurants de stations balnéaires et forme le groupe Dionysos avec trois copains de lycée. Son imaginaire fantastique s'imprime sur une multitude de supports créatifs, souvent pensés simultanément, chansons, romans, film, documentaire, l'insomniaque hyperactif fabrique un cosmos onirique et sombre. En 2013, il survit à une maladie rare grâce à une greffe de moelle osseuse. Transmuté dans son cosmos poétique, ça donnera Journal d'un vampire en pyjama. Le vampire est aussi le directeur artistique des Trois Baudets et a sorti cette année le film Une sirène à Paris, adapté de son roman éponyme. Bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
Mathias Malzieu, vous connaissez la première question de cette émission, mais vous avez dit une phrase dans une interview qui, je pense, va faire du bien aux auditeurs. Vous dites, justement parce qu'on est un peu lassé de Nietzsche, « Tout ce qui ne tue pas abîme un peu ». Oui. J'ai toujours été hypersensible.
Oui, parce que cette phrase, effectivement, on me l'a beaucoup dite pendant la période d'hospitalisation. Tu vas voir, tu vas revenir plus fort. Et puis, c'est un peu ce syndrome du survivant, genre on apprend. Et en fait, non, on n'apprend pas. Et c'est même ce qui est le plus joyeux. C'est-à-dire que c'est de retomber dans ses travers. C'est-à-dire que pour moi, la guérison, ça a été de me plaindre à nouveau parce qu'il pleut. Et de râler parce qu'il y a un embouteillage.
Des choses du quotidien,
j'ai trouvé
légère,
ça, presque. C'est ça le normal extraordinaire. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai eu une euphorie en plus, et j'ai un rapport à l'ultra-vie qui s'est exacerbé. Donc, c'est pas totalement faux, mais en même temps, je reviens aux petites choses, et regarder les petites choses de manière un petit peu décalée, c'est aussi une forme d'extraordinaire. Alors bien sûr, cette histoire d'hôpital, ça m'a donné envie de faire des choses un peu folles. Je suis parti en skateboard traverser le cercle polaire en Islande, puis ensuite j'ai passé pour un documentaire 3 jours chez un éleveur de rennes au Cap Nord, mais aussi discuter football et poésie avec mon marchand de journaux et râler parce que Neymar il s'est blessé. C'est important aussi. Tout est important et ça s'est exacerbé, mais ces petites choses, revenir à ça, c'est important. C'est pour ça que la phrase de Nietzsche, je suis pas juste plus fort, je suis juste un moi-même exacerbé, en peut-être mieux des fois, mais aussi en pire.
Mathias Malzieu, la première question, vous n'y échapperez pas malgré la jolie réponse que vous venez de formuler. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Aujourd'hui, magnifique, parce que je suis joyeux de faire une émission sur la mélancolie. Donc déjà, elle est complètement truquée, votre histoire. C'est ce qu'on est content.
À l'abri pendant une petite heure.
On est bien à l'abri quand on le fait, mais quand on l'écoute, c'est-à-dire que c'est... Il y a des émissions comme ça, je suis heureux d'être là. Donc c'est vrai que c'est peut-être du coup, je suis complètement hors sujet, parce que je suis heureux de travailler avec vous sur la mélancolie. En même temps, c'est le remède. Donc.
Mais vous...
Moi, le rapport à la mélancolie, c'est une matière première parce que c'est une matière à contraste de la joie. Je suis un grand amoureux de la joie, peut-être pas du bonheur. Mais le bonheur, ça doit être une moyenne, c'est un état.
Vous dites d'ailleurs que la joie est sous-estimée.
Très sous-estimé, mais la mélancolie aussi. La joie n'existe pas sans la mélancolie. Il y avait ce film génial de Pixar
sur les émotions.
Ouais, formidable. Et il appelait pas le personnage la mélancolie, il l'appelait la tristesse, mais c'était un petit raccourci. Et la joie ne pouvait pas exister sans la tristesse. On a un beau ciel étoilé, pourquoi ? Parce qu'on a un ciel bien noir et qu'on fait des trous dedans et qu'on met de la lumière derrière. Et là, du coup, on a une lumière qui sort, on a un contraste. Donc moi, la mélancolie me sert à faire des trous dedans à la transpercer pour mieux voir la joie.
Mais vous avez une force, Mathias Malzieu, en tout cas ça émane d'absolument toutes vos créations et toutes vos interviews, c'est le désir.
Oui, c'est la base pour moi. C'est la base de tout. En fait, c'est la fameuse phrase de Brel, le talent, c'est le désir. C'est-à-dire que le gars qui se lève le matin, qui veut pêcher un poisson, eh ben, il va préparer sa canne, il va prendre son bateau, et puis s'il n'y arrive pas, il va recommencer. Surtout, c'est aussi sur la question du courage de recommencer. Et tout ça est drainé par le désir. Et j'ai eu la chance d'être éduqué comme ça, c'est-à-dire à l'encouragement. Pas tout ce que tu fais est génial, mais si tu veux quelque chose, travaille pour ça et travaille à son rêve, c'est quand même un beau métier.
Parce que c'est l'une des choses les plus difficiles qui existent, d'entretenir son désir.
Bien sûr, c'est la question de l'amour et ça se protège aussi. C'est l'amour amoureux et que évidemment on a tous un peu sommé étrange, mais l'amour filial, l'amour la camaraderie, l'amour
des chiens,
des chats, des hamsters beaucoup hein en ce qui me concerne. Et puis la sidération. Ouais, les crêpes, la sidération devant une bonne crêpe que j'adore manger sans rien.
Sidération devant une crêpe.
Ah bah oui, parce que moi je suis toujours épaté de l'effet que me fait une crêpe. C'est-à-dire que du coup j'ai fait des poèmes là-dessus sur une femme en peau de crêpe et tout ça, parce que ça c'est un truc. Je veux même pas mettre de sucre. Je sais pas si c'est une crêpe Madeleine de Proust ou de je ne sais qui, mais le fait est que de manger une crêpe, ça me rassure. C'est un truc qui me rappelle les repas crêpes de l'enfance après des matchs de foot sous la pluie où on est fatigué, déçu d'avoir perdu, et puis on revient à la maison et il y a des crêpes et tout d'un coup on se ressent reconstitué.
D'ailleurs, vous semez des allusions aux crêpes dans votre œuvre, dans des chansons que vous avez écrites pour d'autres, où Jacques est la mécanique du cœur. Mais j'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs. Mathias Malzieu, vous allez convoquer dans quelques instants Jim Jarmusch, Henri David Thoreau du surf, Roald Dahl, le pastafarisme, Boris Vian, Lee Marvin, Émile Ratier, et un renne juste après un titre du dernier album de votre groupe Dionysos, Le Chêne, sur le dernier album Surprisier.
Je le connais, ce chêne. Je le connais, il retient l'horizon, il nous protège. Même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance. Mémoire sauvée du vent, entre les branches et à travers le temps. Il me connaît, ce chêne. Il me connaît depuis bien longtemps. Il n'oublie rien, le chêne. Je me déchaîne pour remonter le temps de notre enfance. Mémoire sauve du vent entre les branches et à travers le temps. Sur le chemin des conifères, je grimpais. Sur le toit des conifères, je rêvais de vivre en accéléré. Je suis né, il a poussé le chêne. Dans le ciel, ses branches se sont enracinées. À notre enfance,
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de Mathias Malzieu.
Screaming, screaming, ah, screaming, screaming, one moment, are you ever screaming? Eh, screaming. Screaming, eccolo qua. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. No, no, aspetta. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. You understand? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream.
1986, Down by Law de Jim Jarmusch, on entend Roberto Benigni, John Lurie et Tom Waits chanter dans une scène que vous affectionnez particulièrement, Mathias Malzieu, et je vous laisse nous la décrire parce qu'ils sont dans une cellule de prison et ce chant se communique à toute la prison.
C'est extraordinaire parce que c'est tout en fait la poésie de mélangée de Jim Jarmusch et de Roberto Benigni, qui est donc un Italien qui apprend l'anglais et qui note des mots sur un petit carnet et qui évidemment la poésie de l'erreur, hein, c'est souvent la poésie et l'humour, c'est quelque chose qui se décale et qui crée un mystère qui fait qu'on est attiré par quelque chose de non palpable. Et là, en fait, ça se fait juste avec une petite erreur de mot. Il confond
le cri avec ice cream de la glace.
Et du coup, il est en train de tricher au poker, comme d'habitude. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison, d'ailleurs.
Non, je crois qu'il a assassiné quelqu'un.
Oui, mais il triche. Et du coup,
parce qu'il triche. Oui.
Il se fait poursuivre et en fait il prend la boule numéro 8 comme il dit, very good ball to kill a man. Il prend, vous voyez, j'essaie de faire son très bel accent. Il prend la boule et il jette et en fait il tue quelqu'un, mais il dit qu'il a pas fait exprès, qu'il a juste voulu s'échapper. Et là ils jouent ensemble les prisonniers, et quel prisonnier, hein, John Lurie, Tom Waits, c'est lui-même. Et puis il est encore en train de bluffer et du coup John Lurie lui fait ah, genre t'as encore bluffé, t'avais rien comme d'habitude. Et il fait, ah, mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est un cri, c'est une glace, donc il confond. Et il improvise cette petite chanson qui est une espèce de phrasé, une scansion entre du hip-hop et un chant indien, au milieu d'une prison, dans le bayou, en noir et blanc, avec trois gars un peu en pyjama, comme dans les très très vieux films. Et puis, ils commencent à le reprendre ensemble, et commencent à faire une danse un peu comme ça d'indien. Ça devient une mini-tribu de trois personnes qui, au début, se comprennent pas. Et au moment du chant, et ça c'est très important, je trouve, ils deviennent complices au moment du chant. Toutes les questions d'incompréhension entre eux prend forme, et ce qui est très très beau comme idée, c'est que hors champ, alors qu'il n'y a pas du tout la caméra qui change, on reste sur eux, on entend tout le reste de la prison qui se met à entonner, et du coup là il y a une résistance, là c'est l'engagement poétique de Jim Jarmusch qui prend toute sa consistance pour moi sur cette scène.
C'est un film aussi qui est rempli de fantaisie, comme souvent dans les films de Jarmusch, et ça m'étonne pas que vous l'ayez choisi, Mathias Malzieu. Et puis je peux pas m'empêcher de souligner évidemment que vous qui êtes aussi musicien et chanteur, c'est un film très musical. Déjà, le réalisateur fait jouer des musiciens. Il y a Tom Waits, John Lurie, Iggy Pop dans ses autres films. Et vous, dans Jack ou la mécanique du cœur, il y a Olivia Ruiz, Dani, Arthur Ashe, Alain Bashung, Grand Corps Malade. Et vous, Jarmusch, il a un groupe qui s'appelle Squirrel.
Écureuil.
Ouais, écureuil écrit bizarrement.
C'est ça.
Et puis, je dois dire quand même que j'ai eu envie de jouer du luth en écoutant la bande originale de
Only Lovers Alive.
Exactement.
Fabuleux.
Ouais, avec Joseph Van Wissem.
Ouais, et j'ai une histoire un peu particulière avec ce film, parce que justement, moi, c'est quand j'étais hospitalisé. Et du coup, c'était un film de vampire.
Un vampire, bien sûr.
Moi, je me considérais comme un vampire parce que je devais être transfusé 3 fois par semaine. Donc, je m'en amusais pour mettre la réalité un tout petit peu à distance, ou en tout cas l'attraper un petit peu par un autre bout. Et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'ai eu le droit d'aller à nouveau dans une salle de cinéma sans masque.
Oui, parce que vous étiez confiné pendant plusieurs semaines.
11 semaines en chambre stérile et un an et demi à pas pouvoir trop aller dans les lieux publics. Et c'est le premier film que j'ai vu. Par sa thématique, enfin évidemment le vampire qui en plus va chercher des globules rouges à l'hôpital, c'est exactement le genre de décalage poétique qui me plaît, parce qu'en fait c'est le surnaturel qui est au service du réel. Ce ne sont pas des bulles d'onirisme juste pour faire de la décoration qui nous plaît, c'est le surréel qui dit encore plus le réel, comme quand on crie ou quand on fait de l'humour. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire avec Une sirène à Paris. Cette sirène, j'avais vraiment envie que ça soit la métaphore d'une vraie histoire d'amour impossible.
Notre stagiaire Lola Bertel y l'extrait dans lequel se trouve votre citation consolatoire. C'est le jugement qu'un homme porte sur lui-même qui détermine, ou plutôt indique, sa destinée. Pensez aux belles dames de notre pays, tissant des coussins de boudoir, en prévision de leur dernière heure, afin de ne pas trahir l'intérêt trop naïf qu'elles portent à leur destin. Comme si l'on pouvait tuer le temps sans blesser l'éternité. En tuant le temps, on blesse l'éternité. Une formule d'Henry David Thoreau tirée de Walden ou La vie dans les bois, publiée en 1854. C'est le récit de son séjour dans une cabane pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours, dans la forêt appartenant à son ami et mentor Ralph Waldo Emerson, au bord de l'étang de Walden dans le Massachusetts. Massachusetts ?
Exactement. Vous pouvez le répéter 4 fois hyper vite.
Massachusetts, 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 Massachusetts.
Bravo.
Texte qui s'inscrit dans la tradition transcendantaliste, parce que selon Thoreau, au contact de l'élément naturel, l'individu peut se renouveler et se métamorphoser. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathias Malzieu, sachant que je crois que vous travaillez aussi dans une cabane?
Oui, alors bon, évidemment, moi je suis un petit scout junior, hein, à côté de Jean Copsa. Je n'ai pas passé 2 ans. J'ai juste effectivement fait quelques petites pauses, cures de déconnexion à peu près tout, dans des cabanes. Notamment, j'ai fini d'écrire le livre Une sirène à Paris pendant 3 semaines. J'étais 3 semaines seul dans une cabane, et là on est à peu près le roi du monde, en fait, parce que on s'aperçoit que on diminue notre besoin de d'informations et de choses, et du coup, ben les livres, on a plus le temps pour réfléchir. Et on se recentre. Alors effectivement, après, il faut avoir une petite vie intérieure, et quand on s'aperçoit à quel point on n'en a pas, et comme, ou en tout cas à quel point on se la démuscle, parce que bon, bah on se dit, oula, bah on va s'ennuyer, ça peut être un peu vertigineux. Puis petit à petit, en fait, je crois qu'on est fait pour ça, pas spécialement les artistes ou moi ou quelqu'un d'autre. Je pense qu'en fait c'est en nous, mais c'est recouvert du béton, des dalles de la ville, et puis quand on gratte dessous, ben on est toujours ces petits animaux instinctifs qui peuvent se reconnecter à eux-mêmes, et je pense que la nature aide.
Et cette citation, en tuant le temps, on blesse l'éternité. Comment vous l'entendez, Mathias Malzieu?
Je l'entends comme sur une question de l'intensité, en fait. Et l'intensité, c'est pas toujours crier, se rouler par terre ou faire un voyage de l'autre côté de la terre. C'est comme on se le disait un petit peu tout à l'heure, c'est des fois des petites choses du quotidien, mais être au monde avec un certain regard, avec une curiosité. C'est peut-être un des plus grands remèdes à la mélancolie. Et vous en êtes un, parce que vous êtes une curieuse.
C'est vrai.
Et une gourmande. Et ça fait du bien quand on vous écoute. Moi, vous êtes un des remèdes à la mélancolie.
Bah, écoutez, je suis très flattée, et mon ventre qui a triplé de volume à cause de ma gourmandise aussi. Je vous remercie, Mathias Malzieu. Je voudrais juste vous citer une très belle citation de Walden ou La vie dans les bois. Si humble que soit votre vie, faites-y honneur et vivez-la, ne l'esquivez pas et n'en dites point de mal. Elle n'est pas aussi mauvaise que vous, c'est lorsque vous êtes le plus riche qu'elle paraît le plus pauvre.
Oui, bah, c'est un régal quand même d'entendre ça. Ça fait, en fait, ça bouge autant que ça réconforte. En fait, c'est du réconfort en mouvement. C'est pas du repli, c'est du vas-y, quoi. Vas-y, saute, quoi. C'est, évidemment, c'est un peu dans la lignée de Walt Whitman ou de Jean Copsa. Et c'est marrant parce que un des premiers films qui m'a marqué, outre E.T. quand j'avais 8 ans, mais vraiment mon film de l'adolescence, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Et le cher professeur Keating cite Thoreau et Walt Whitman. Et on est dans le même élan de ce fameux carpe diem qui a été retenu de manière un petit peu, des fois, simplifiée, mais profite de la vie, profite. Ça peut paraître le truc un peu épicurien de base, mais en fait, si on réfléchit, on oublie beaucoup ça. Et c'est tellement précieux et c'est tellement joyeux, justement.
Walt Whitman, cité aussi par Benigni dans Down by Law, le film que vous
Exactement.
Avez choisi, Mathias Malzieu.
Tout à fait.
Tout est un cosmos très cohérent.
Tout à fait, et j'avais adoré justement de retrouver Walt Whitman dans les mots de Benigni, alors que j'étais en train de tomber complètement amoureux de Jarmusch et de ce film. Et hop, on m'a remis dans le petit chemin du petit poussé, j'ai retrouvé un petit caillou Walt Whitman, effectivement, dedans. I woke up this morning, turned on the radio. I was checking out the surfing teacher, see if I would go. And when the DJ told me that the surf is fine, that's when I know my baby, I will have a good time. Surfing, 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 surfing.
Surfing par le groupe The Orleans pour introduire l'activité qui vous grise, Mathias Malzieu, et qui est dans les îles hawaïennes depuis le 15e siècle, le surf. Vous avez appris en autodidacte ?
Oui, par rêve. Je faisais du skateboard quand j'étais petit, j'en fais encore.
Par rêve, en imagination ?
Mais je rêvais de surfer en fait. Je faisais du skateboard parce qu'il y avait des routes dans la Drôme plutôt que des vagues. Donc je faisais ça, mais je me rêvais surfeur. Et quand j'ai eu la possibilité d'aller sur la côte landaise, je devais avoir à peu près, je sais pas, une vingtaine d'années. Et ben j'ai vite loué une planche, j'y suis allé. Évidemment, je ne suis arrivé à rien, si ce n'est à manger du sable et à faire ce qu'on appelle des machines à laver, c'est-à-dire se faire retourner dans les vagues et recracher par la mer comme un vulgaire déchet sur le sable. Mais ça apprend l'humilité tout de suite. Le surf. Et du coup, après, j'ai pris un petit cours et petit à petit, j'ai appris des choses. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être un local et pratiquer pour vraiment être un vrai surfeur. Moi, je suis quelqu'un qui fait du surf, je suis pas un surfeur. Mais même attraper une vague de 50 à 70 centimètres, être debout, c'est la joie absolue pour moi.
Vous roulez sur les vagues et sur le bitume, Mathias Malzieu, et en 2014, vous vous êtes fait une promesse. Si je guéris, je traverse l'Islande en skate à moteur. Et vous l'avez fait ?
Oui.
Vous avez fait d'ailleurs un documentaire sur la Norvège pour Arte, où vous êtes allé au-delà du cercle polaire.
Oui.
Et l'un de vos remèdes, c'est le jour où vous avez croisé la route d'un bébé renne blanc sur la route du Cap Nord, en Norvège. Je sais qu'il est en photo dans l'une des expositions de photos que vous avez réalisées.
Oui.
Puisque vous prenez une photo par jour.
Oui, j'essaye.
Quoi qu'il arrive.
J'essaye. En ce moment, c'est
depuis
un peu compliqué.
10 ans à peu près.
Ouais, j'adore ça. C'est un peu... j'essaye de faire... J'y arrive pas tous les jours, mais c'est comme une gym. Il y a les petites stories Instagram, il y a les aphorismes, les haïkus, les photos. Et c'est un truc qui me tient en éveil.
Une gym créative. Mm. Parlez-nous de ce renne.
Alors, c'était complètement magique.
Comment s'appelait-il ?
À l'époque, je ne suis pas arrivé à lui donner de nom. Il était trop grand. C'était Dieu. Bon, c'est un athée qui vous parle. Hein, mais là, c'était une apparition complètement religieuse, magique. C'est-à-dire que j'ai lu La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson il y a pas très longtemps, et il parle de d'apparition religieuse quand il a vu La Panthère des Neiges, et à mon humble niveau de petit renne, j'ai ressenti ça. C'est-à-dire qu'on était hors enclos, et puis il y avait tout le contexte, c'est-à-dire que l'éleveur de rennes qui m'avait reçu, avec qui j'avais passé 3 jours, m'a dit, tu sais, si tu croises un renne blanc, ça lave l'âme, c'est quelque chose de magique, c'est un animal magique, vraiment. Donc, même si on n'y croit pas, en fait, je suis sensible à la poésie du peut-être. Peu importe qu'on y croit ou pas, finalement, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Et j'étais sensible au cœur que mettait ce monsieur dans sa tente, comme ça, au bord d'un feu, à me parler des rennes et du renne blanc. Et bon, on se sépare, c'est très émouvant. Il nous reste 10 heures de voiture pour atteindre le Cap Nord, l'endroit le plus septentrional d'Europe. Et puis là, je suis tombé devant l'embouteillage le plus poétique de l'histoire des embouteillages, c'est-à-dire quelques rennes qui barraient la route. Et comme c'est un animal sacré là-bas, les gens ne klaxonnent pas. Donc on était au milieu d'un décor complètement lunaire. Il y avait 3 voitures, mais ça ne klaxonnait pas, ça durait 2 heures. Donc on est sorti un peu filmé, la régisseuse nous a dit « Attention, il y a des rennes, on en a plein ». Donc dès qu'on redémarre, et on a encore 10 heures de route, les gars, et on s'est évaporé pendant 2 heures. Pourquoi ? Parce que complètement hors enclos, on est tombé sur un petit renne blanc qui avait encore son sang de cordon. Hein, donc on voyait le sang au bout du cordon.
Sachant que vous avez été sauvé par un sang de cordon en étant greffé de la moelle osseuse. Et c'est d'ailleurs un de vos remèdes à la mélancolie, Mathias Malzieu, la rencontre avec votre deuxième mère biologique.
Alors ça, oui, c'est très lié tout ça. C'est-à-dire que ce petit renne, du coup, je l'ai vu comme un signe. Je me suis dit, peut-être que je vais avoir des enfants un jour, peut-être que... Enfin là, on devient en fait complètement dans l'ultra-poésie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est déconnecté de son quotidien, on est très loin, et on voit comme une créature imaginaire. J'aurais vu une licorne, ça m'aurait quasiment fait le même effet. Et puis il est arrivé, et la mère était là à 2-3 mètres, et elle n'avait pas encore peur. Ils sont tellement loin des hommes qu'ils n'en ont pas encore peur. Ce qui fait que de me voir débarquer avec mon skateboard et ma barbe trop longue et mon bonnet rouge, ça ne les a absolument pas effrayés. Et c'était un moment complètement du temps.
Ne pas connaître les hommes et donc ne pas en avoir peur. C'est très beau et triste en même temps. Nous parlerons d'un oncle plus que licencieux dans quelques instants, juste après un morceau de la playlist France Inter, London Grammar, Baby It's You.
Changing, see them everywhere. comes like lightning, I don't even care. And the crowd is heavy, I don't wanna move. All these colors in me, but all I see is you. And nothing else matters. You
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Mathias Malzieux. J'avais promis un oncle grivois. Le voici. Il s'agit du roman L'Oncle Oswald de l'écrivain britannique Roald Dahl, publié en 79. Une commande du magazine Playboy pour le 25e anniversaire de la revue. Et une histoire décrite par Roald Dahl comme la plus longue et la plus sale qu'il n'ait jamais écrite. C'est donc tout naturellement votre sérum littéraire, Mathias Malzieux.
Ah oui, parce que c'est tellement drôle. C'est comme si c'était Forrest Gump un peu. C'est-à-dire que c'est une fresque historique, quelque part, mais complètement décalé. On parlait hors antenne d'absurde. Il y a une dimension d'absurde, mais en même temps, on revisite quelques années d'histoire avec ce personnage qui aurait inventé, quelque part, le Viagra ou tout ce genre de choses, le préservatif, enfin tout ce qui traite, mais ce qui fait de beaucoup plus marrant, surtout, c'est qu'il va quand même créer une banque de sperme de génie.
Parce qu'en fait, donc l'oncle Oswald est quelqu'un d'assez licencieux et on peut dire qu'il est dénué de scrupules.
Voilà.
Il est très grivois.
Oui.
Et il décide de grâce à une étudiante avec laquelle il s'acoquine, qui est très séduisante, de donner des pilules aphrodisiaques à des hommes en cachette sans qu'ils le sachent.
La poudre de Méloé. De Méloé.
Méloé, pardon.
Ouais, qui est un moustique. Donc tout le début de l'histoire où il y a quelqu'un qui avale un moustique et qui du coup a des pulsions sexuelles un petit peu énormes. Et donc il en fait une poudre, il dose un espèce de médicament qu'il met dans un chocolat et il amène dans son cette demoiselle qui va avoir des aventures sexuelles avec tous les génies pour leur piquer
Einstein,
leur spermatozoïde. Et du coup c'est d'une drôlerie folle parce que du coup il imagine le comportement sexuel des génies. Donc évidemment c'est ultra savoureux, c'est Forrest Gump érotique. Parce qu'il y a une tendresse et une naïveté, c'est jamais une noirceur ou une glauquerie, on est toujours le sourire aux lèvres, on s'amuse à être choqué, mais c'est pas un choc, ça swing tout le temps, c'est drôle, c'est presque comme un conte. Mais en même temps, c'est toujours un peu au bord du précipice et c'est pour ça, c'est là que le mystère devient un petit peu savoureux quoi.
Est-ce que vous auriez un petit extrait à nous lire, Mathias Malzieux, de ce livre ?
Avec plaisir, oui.
Pendant que vous le cherchez, je dis aux auditeurs qu'on a découvert en préparant cette émission que c'était Roald Dahl qui avait popularisé les Gremlins.
C'est lui qui a écrit l'histoire,
oui. Oui, en fait, c'est un mythe inventé par les aviateurs britanniques. Fait, ouais. C'est dans l'argot de la Royal Air Force, dans les années 20 et pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était des petites bêtes imaginaires responsables des problèmes mécaniques dans les avions. Et Joe Dante en a fait un film plus tard, mais très, très librement adapté.
Oui, tout à fait. Mais j'ai le livre, j'avais acheté ça quand on a eu la chance d'enregistrer un disque à San Francisco, et je traînais tout le temps dans la fameuse City Lights, qui est la librairie de la Beat Generation et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé le Gremlins de Roald Dahl, illustré, tout ça. Jamais été traduit en français, mais c'est un petit livre pour enfants, très drôle. Donc c'est l'esprit, mais après, évidemment, mais ça a été effectivement l'origine des Gremlins qu'on connaît et qu'on adore tous. Je vous lis un petit passage où ils sont en train d'expérimenter tout ce qui pourrait conserver les fameux spermatozoïdes des génies. Quand ils sont en train de fomenter leur plan fou. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, il y a Vincent Gallo qui a fait la même chose. Le comédien Vincent ouais. Gallo est chanteur aussi, qui a fait de très beaux disques.
Il a fait une banque de sperme.
Non, il a pas fait une banque de sperme, mais il a mis son sperme, il a congelé son sperme et il l'a vendu comme une œuvre d'art à des millions. C'est-à-dire que ça coûte des millions, je sais pas combien de millions, pour récupérer les spermatozoïdes de Vincent Gallo. Je sais pas si il les a dégelés depuis ou si elles ont été achetées par quelqu'un. Mais en tout cas, je sais qu'il a fait ça et que c'est évidemment un clin d'œil à ce livre.
D'accord.
Donc, j'y vais.
Mon oncle Oswald, Roald Dahl, par Mathias Malzieu. Ceci est un audio-livre.
Je vous dirai simplement la bonne recette. Le lait écrémé. 80% de lait écrémé, 10% de jaune d'œuf et 10% de glycérine. Voilà la mixture magique. Les spermatozoïdes adorent ça. On mélange le tout en agitant vigoureusement comme s'il s'agissait d'un cocktail. Avec cela, je disposais désormais d'une quantité de liquide convenable pour procéder à mes expériences. Durant plusieurs années, je travaillais avec les vaches de mon frère et finalement j'aboutis à la dose optimale. Quelle était-elle ? La dose optimale se montait seulement à 20 millions de spermatozoïdes par vache. Lorsque j'injectais à l'animal cette quantité précise au moment opportun, j'obtenais 80% de gestation. Et n'oubliez pas, Cornelius, ajouta-t-il avec excitation, que chaque éjaculation de taureau contient 5000 millions de spermatozoïdes. Si l'on divise par 20 millions, cela donne donc 250 doses disponibles. C'était stupéfiant. J'en demeurais tout ébahi.
Chers auditeurs, cher Cornelius, cher Mathias Malzieu, écoutez bien. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux paroles, il parle de nouilles al dente. On entend un chant pastafariste sur l'air d'un chant sacré orthodoxe, puisqu'il est temps de parler de la religion antispline à laquelle vous adhérez, Mathias Malzieu, tout comme le dessinateur Vooch. C'est le pastafarisme créé en 2005 par l'étudiant Bobby Anderson en réaction à la décision du comité d'éducation de l'état du Kansas visant à introduire l'enseignement de la théorie du dessin intelligent dans les écoles publiques.
Créationnisme, ouais.
Exactement. C'est un monstre en spaghettis volant qui aurait créé le monde en une journée après une cuite mémorable, d'où l'imperfection du monde.
Tout à fait. Et puis le paradis, c'est des volcans à bière avec des stripteaseuses.
Et des stripteaseurs aussi.
Bien sûr, et des stripteaseurs, tout à fait. Et l'enfer, c'est la même chose, sauf que la bière est inventée et que les stripteaseurs et stripteaseuses ont des maladies vénériennes.
Évidemment. Et puis, si vous prouvez qu'ils ont tort sur leur vision de la création du monde, ils vous offrent 1 million d'euros.
Oui, c'est ça.
Ils font aussi le ramen dans. Ouais. Ils mangent des ramen en sachet pendant 3 jours non-stop pour se rappeler la galère des années étudiantes.
Exactement. Au lieu de dire amen, ils disent ramen. Le vendredi, il faut manger des pâtes. Et puis, ils ont aussi une théorie sur les pirates. Ils pensent que les pirates n'étaient absolument pas des gens sanglants ou quoi que ce soit, c'était des gens qui donnaient des bonbons aux enfants, qui étaient extrêmement marrants et qu'il faut toujours se déguiser en pirate pour se marier, pour faire la fête. Il y a aussi des gens qui ont poussé le vice amusant de se faire photographier pour leur pièce d'identité aux États-Unis avec le signe ostentatoire, à savoir une passoire évidemment sur la tête.
Évidemment. Comme tout pastafariste qui se respecte.
Et c'est très drôle parce que en fait c'est une critique amusante et ludique des intégrismes. C'est absolument pas une critique des religions, en fait. Du tout. C'est au contraire, chacun peut penser, même l'absurde, même le poétique, on peut croire à un Jedi, on peut croire à des licornes. Il y a aussi le culte de la licorne rose invisible qui existe. Oui. Où elle est rose, mais comme elle est invisible, on n'est pas sûr. On peut croire chacun son histoire. Et tant que ça réconforte quelque part d'aimer un auteur ou d'aimer une religion, tant qu'il y a une histoire qui vous fait du bien, bah, tout le monde a raison. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui devient trop dogmatique, qui vous dit c'est mon histoire la meilleure, et si tu penses pas la même chose que moi je dis, je vais te tuer, on a un problème. Et cette religion pastafariste, voilà, se moque un petit peu de cet intégrisme.
C'est vrai qu'aucune guerre n'a été faite en leur nom. Tout de suite, on écoute le morceau d'un drôle de pistolet qui aurait pu inventer le pastafarisme.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. Arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. T'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là. On a trépassé le soir, mais voilà. On se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est temps, qu'autant, on peut finir par obtenir déménagement.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Mathias Malzieux et Boris Vian, dont vous parrainez le centenaire cette année puisqu'il est né en 1920. Et vous avez choisi un morceau de 55, on n'est pas là pour se faire engueuler. Mathias Malzieux, vous qui êtes à la direction artistique des Trois Baudets, qui a évidemment accueilli Boris Vian.
Il y a une histoire folle, oui, sur évidemment ce lieu fabuleux dont je porte maintenant les couleurs avec joie et honneur. C'est qu'il y a, voilà, il y a Barbara, Gréco, Gainsbourg, Brel et Brassens et plein d'autres géniaux. Même Jean Rochefort est passé là-bas. Et Boris Vian.
Qui fait la voix de Méliès dans Jack et la mécanique
du cœur.
Tout à fait,
qui est une des personnes les plus extraordinaires qui m'était donné de rencontrer, qui m'avait dit, à la fin de l'enregistrement, j'avais l'impression d'avoir 4 ans et demi un peu, et il me disait, alors, ça vous a plu? Alors, j'ai dit, bah oui, c'est extra. Ouais, vous dites ça, mais à peine j'aurai tourné les talons, vous allez appeler Jean-Pierre Marielle.
C'est vrai que oui.
Non, mais il était vraiment, il était pas avare. En fait, il savait que c'était savoureux d'être avec lui. Et en fait, il donnait ça avec beaucoup de générosité. C'est des gens hors du commun. Quel dommage de pas avoir pu, garder ces messages téléphoniques. Ça commence toujours comme ça. Rochefort! Comme ça. C'est juste génial. C'est juste génial. Je regrette de pas les avoir retenus. Mais bon, voilà. Les Trois Baudets a accueilli, une histoire extraordinaire. Donc, je suis très, très heureux de faire des choses là-bas maintenant un petit peu. Et puis, Boris Vian, c'est quand même le roi des Trois Baudets. Il a joué 120 fois. Il habitait Cité Véron à côté. un endroit qu'on peut encore aujourd'hui visiter. On fait une petite lettre à Nicole Berthold et c'est possible d'aller de vivre. Elle a fait un travail extraordinaire de recense de toute son œuvre si pléthorique et si riche. Et on peut aller chez lui. On voit ses disques de bebop, on voit sa trompinette, son lit, son atelier et sa fameuse terrasse géniale qui est un des seuls endroits de Paris où on peut voir les pales du Moulin Rouge à l'envers de l'autre côté. Et c'est la terrasse des trois satrapes. Les satrapes, c'était donc les grands maîtres de la pataphysique, cette science de l'imaginaire.
Vous qui faites partie de la Ligue de l'Imaginaire, d'ailleurs.
Tout à fait, avec beaucoup de super petits écrivains comme moi, dont Bernard Werber, qui est un petit peu un des initiateurs. Et cet endroit est assez fou parce que, en fait, sur le palier d'à côté, il y a quand même Jacques Prévert qui habite.
En ce moment.
Alors maintenant, il y a son fantôme qui vient visiter de temps à autre. Et donc cette terrasse, la terrasse des Trois Satrapes, c'est la terrasse de Boris Vian, de Jacques Prévert. Et le troisième, vous savez qui c'est ? C'est le chien de Jacques Prévert.
Oh.
Et je pensais que ça vous plairait parce que c'est un peu absurde, mais c'est quand même touchant.
Et ça me plaît beaucoup puisque les chiens sont l'un de mes premiers remèdes à la mélancolie. Et vous connaissez le prénom de ce chien ?
Non.
J'aime beaucoup connaître les prénoms des chiens.
Je l'ai oublié.
Quand je les fréquente, je les appelle.
Et c'est sur la plaque.
Par leur nom de famille.
C'est sur la plaque, donc je pourrais vous le communiquer.
Ultérieurement.
Ouais, ouais.
Formidable.
I've never seen a sight that didn't look better looking back.
Wandering Star de Lee Marvin, chanson composée pour le film de Joshua Logan, La Kermesse de l'Ouest, sortie en 69 avec Clint Eastwood, Lee Marvin et Gene Seberg, et adaptée de la comédie musicale homonyme créée à Broadway en 51. Je suis née sous une étoile filante. L'êtes-vous, Mathias Malzieu ?
J'espère. J'espère, je ne sais pas si je suis né dessous, mais en tout cas, j'en vois passer au-dessus de ma tête de temps en temps. J'ai envie de m'accrocher derrière au maximum. Il y a une phrase extraordinaire dans cette chanson. C'est « Snow can burn your eyes, but only people make you cry ».
La neige peut brûler vos yeux, mais seuls les gens vous font pleurer.
Voilà, je trouve ça quand même assez...
Est-ce que vous savez qu'il y a un lien avec Jim Jarmusch ou pas du tout ?
Bien sûr, parce qu'il y a un fan club de Lee Marvin.
Il a fondé une société secrète.
Tout à fait, une société secrète façon surprisier.
Oui.
Et là, dans cette société secrète, il y a Jim Jarmusch, Tom Waits et Nick Cave.
Et ça s'appelle les fils de Lee Marvin, et c'est toutes les célébrités dont le visage ressemble à ce qu'aurait pu être le fils de Lee Marvin. Évidemment, le vrai fils de Lee Marvin n'est pas du tout d'accord
oui.
avec la création.
Il ressemble pas du tout, c'est pour ça qu'il est exclu.
Ça, c'est un bateau de guerre. Vous voyez là des avions, mais voilà les canons. Écoutez. Les canons, le moteur. Le moteur qui fait tourner l'hélice et les crocodiles. Parce qu'il était persuadé qu'il y avait toujours des crocodiles sous les bateaux.
Catherine Bourbonnet du musée La Fabuloserie à Dissy dans Lyon, dans l'émission Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet. La Fabuloserie, déjà, c'est un nom qu'on dirait créé pour vous, Mathias Malzieu. Mmh. Et puis, surtout, elle parle du sculpteur Émile Ratier, que vous avez choisi pour cette émission, qui avait une particularité, c'est qu'il a perdu la vue, il est devenu complètement aveugle, et ses sculptures, elles étaient conçues pour être touchées et écoutées, et fonctionnaient avec des manivelles qu'on actionnait, des cloches, des balançoires, des animaux. Moi, ça m'a fait penser à Jack et la mécanique du cœur.
Bien sûr, moi ça m'a beaucoup touché parce que c'est quand même il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résilience absolue et fabuleuse justement. Ça, c'était peut-être son cerveau et son cœur qui étaient une fabuloserie à ce monsieur. C'était donc un artisan, un ébéniste qui faisait pas quelque chose de particulièrement créatif lorsqu'il devait travailler pour gagner sa vie. Et puis lorsqu'il est devenu aveugle et qu'il a perdu du coup son travail, on a retrouvé un fil de fer qui liait la maison où il dormait et son atelier. Donc avec ce fil de fer, il pouvait se diriger jusqu'à son atelier. Et une fois après sa mort, on a trouvé des trains incroyables, des mobiles avec des oiseaux, des choses comme ça. C'est-à-dire que il a compensé tout ce qu'il avait perdu, et il perd quelque chose qui est sans doute un des trucs les plus durs à perdre, la vue, et il a compensé en devenant complètement artiste. Et ces trains, donc évidemment, ils ont des défauts, mais ils sont vivants. On a l'impression qu'ils sont hantés par lui pour toujours, et c'est les plus belles œuvres d'art du monde pour moi.
Il a aussi inventé une machine à ouvrir les châtaignes.
Tout
Allez voir ses sculptures sur Internet. Merci beaucoup, Mathias Malzieu, d'être venu dans cette émission. Votre dernier film, je le rappelle, s'intitule Une sirène à Paris. Il y a le livre également, avec le même titre aux éditions Albin Michel. Le dernier album de Dionysos, c'est Surprisier, et on peut suivre l'actualité du groupe sur le site dionyweb.com. Et le 7 octobre prochain, vous sortirez un ouvrage en collaboration avec Daria Nelson aux éditions Iconopop. Ça s'appelle Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont sur le site de l'émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que dans votre âme règne le même agrément que celui qu'on trouve chez les Roches Évaporites, propriétaires de Tapir. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.